أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la conférence, j'aimerais d'abord remercier les frères et les sœurs de me donner cette occasion d'être avec vous ce soir. Et remercier le frère, je ne sais pas, il est sorti, c'est lui qui a fait l'erreur. Normalement, on m'a dit que c'est à 19h la conférence. Mais il m'a dit, c'est vrai, c'était prévu 19h, mais quand on a tapé les affiches, je me suis trompé, donc j'ai mis 20h. J'aimerais le remercier parce qu'il m'a permis de me reposer pendant une heure, puisque j'ai fait un séminaire ce matin à Paris, et directement de l'estrade du séminaire, je suis monté directement ici, et j'étais vraiment fatigué, donc ça m'a permis de me reposer un peu. J'aimerais aussi remercier notre imam Othman parce qu'il vient de m'apprendre quelque chose. C'est qu'il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas d'ablution. Donc ça sera pour la semaine prochaine. Apparemment, chez vous, on peut faire la prière et attendre la semaine prochaine pour les ablutions. C'est une bonne nouvelle. Chez nous, on fait l'inverse. Mais aidez-le à régler ce problème en faisant des dons pour la mosquée. La troisième chose, la disponibilité. Est-ce que je suis disponible après le... moi, je suis avec vous jusqu'à ce qu'il n'y ait personne ici à la mosquée. À ce moment-là, je vais rentrer chez moi. Mais si vous avez envie de prolonger pour quelques-uns ou pour tous après le repas, je serai à votre disponibilité, Inch'Allah. Alors, le sujet de ce soir, quand j'ai reçu le titre, ça m'a un peu interpellé parce que sommes-nous condamnés à être faibles et divisés? La question, c'est une question provocante, mais elle part presque d'un constat, c'est-à-dire que nous sommes faibles et divisés, et est-ce qu'on va le rester tout le temps? Alors que moi, je ne suis pas du tout, mais alors là, du tout d'accord avec ce constat. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit au frère... Rathman, que ça, c'est peut-être une perception locale. Parce qu'il y a une différence entre la vérité, entre le fait et la perception de ce fait, la perception de cette vérité. Alors, on va essayer de développer ce soir avec vous, d'abord la faiblesse et la division. Elle est réelle, mais à quel niveau et pourquoi et comment l'éviter? Et essayer de donner un état de lieu aussi de l'islam et des musulmans dans le monde, en Europe, en France et même dans le Nord ici. Voir où sommes-nous. Parfois, quand on est dans un espace presque clos, et c'est une des tares, c'est un des défauts des musulmans, de nous enfermer dans des espaces que nous créons nous-mêmes. Et on est tellement enfermé dans cet espace que ça affecte notre perception de la réalité, du monde. Comme on est tout le temps ensemble à la mosquée, on vient faire la prière ici, on se connaît tous ensemble, on se visite entre nous, etc. On finit par croire que le monde, c'est nous, que les musulmans, c'est nous, c'est... Et quand on voit quelqu'un qui n'est pas comme nous, il nous paraît comme quelqu'un d'un peu étrange, un peu bizarre. Alors que malheureusement, 80% des musulmans de France, ce n'est pas vous. Ce sont d'autres gens qui ne font même pas la prière, ou qui vont très rarement à la mosquée, qui font le ramadan occasionnellement, mais qui ne sont pas de votre niveau de pratique ou de connaissance de l'islam. Mais le fait qu'on soit dans notre milieu presque clos à nous, peut affecter notre perception des choses. Et parfois, quand on est dans une association, ou même dans une fédération d'associations, où on a vécu pendant des années des problèmes, une, accumulation, accumule de problèmes, on a l'impression que toutes les associations sont comme ça. Et que tout le monde est comme ça. Et on a envie de généraliser cet état sur le reste du monde. Ça aussi, c'est une déformation de la vérité et de la réalité. Ce soir, j'aurais aimé avoir un tableau pour utiliser un vecteur, on va dire une ligne directrice pour ma conférence. Et cette ligne, ça va être un verset coranique, fi sourate Ali Imran, que vous connaissez tous, mais qu'on va essayer de disséquer ce soir pour comprendre cette faiblesse et cette division. Est-ce que nous sommes condamnés à demeurer dans cet état ? بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous connaissez tous, on vous l'a cité des centaines de fois. On va essayer ce soir de le regarder autrement. Donc, Othman, pour m'aider, s'il te plaît, toi tu vas m'écrire dans ta feuille, Kuntum, sur une ligne, Khaira, une ligne, Umma, chaque mot sur une ligne. Kuntum, Khaira, Umma, Ukhrijat, Linnas, Ta'muruna bil Ma'ruf, Watanhauna anil Munkar. Est-ce que ce verset, il est présent dans votre esprit, là ? Vous étiez, entre guillemets, la meilleure nation qui a été donnée, qui a été offerte, qu'on a sorti, qu'on a formé pour les gens, un as, les gens dans le sens pour les mondes, en réalité. Vous ordonnez le convenable, le bien, le ma'rouf, vous interdisez al-munkar, le mal, ce qui n'est pas bien, et vous croyez en Dieu. C'est ça le verset. C'est un verset qu'on utilise souvent pour un peu frimer, pour montrer qu'on est la meilleure nation. On va essayer de l'utiliser comme une politique générale pour comprendre notre situation. Ton micro n'est pas stable là. Je vais vous donner un état de lieu pour commencer d'abord. La seule religion dans le monde qui gagne tous les jours des adeptes, cinq fois plus important que sa capacité d'intégration de ses adeptes, c'est l'islam. Vous savez, entre guillemets, je crois que je vous ai raconté cette histoire peut-être l'année dernière. Mon père me racontait qu'il avait dans son village un juif tunisien qui avait une boulangerie. Puis il y a un riche tunisien musulman qui a décidé d'ouvrir une boulangerie juste en face du juif. Mais entre les juifs, il y a une sorte de solidarité que nous, les musulmans, malheureusement, on n'a pas. Comment ont fait les juifs pour contrer ce nouveau boulanger qui vient juste d'ouvrir sa boutique en face d'eux ? Et le musulman, il comptait sur le fait que comme moi je suis musulman, et lui il est juif, les gens vont venir chez moi et ils vont le laisser lui. Comment a fait le juif ? Ils ont décidé de demander à tous les juifs, pas seulement du village, de tous les villages et tous leurs amis, de venir acheter le pain chez le musulman. Alors, ils arrivent à 7h du matin, une baguette, une baguette, une baguette, il a fait 15 baguettes, il n'a plus de baguette. Le 6e, une baguette, j'en ai pas, une baguette, j'en ai pas, une baguette, j'en ai pas. Le lendemain, c'est la même chose. Ils l'ont noyé dans la réussite. Ils ont tué ce monsieur-là par la réussite, par son incapacité à répondre à leurs demandes. Donc au bout de 3 jours, 2 semaines, 4 semaines, les gens, tu n'as pas, c'est pas la peine qu'on vienne chez toi, on va directement chez le juif. Ben, c'est ce qui se passe pratiquement pour la nation musulmane. C'est-à-dire, on a tellement de convertis ici en France, en Europe, on a tellement de gens qui intègrent l'islam en tant que personne, en tant que communauté, en tant que pays même, qu'on est incapable, on n'a pas la capacité d'intégrer ces gens-là. Et c'est la seule religion. Et ce n'est pas le fait de notre travail. Il ne faut pas dire que c'est grâce à Hassan Iqiyoussen et ses conférences, grâce au séminaire de Tariq Ramadan, grâce au khutbah de Othman Iqiyoussen. Non, c'est un agenda divin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé dans son agenda de faire cette chose. Donc l'état de l'islam général dans le monde, sur le plan de la conversion, sur le plan de l'adhésion de gens à l'islam, que ce soit des musulmans qui étaient égarés, des musulmans qui n'étaient pas pratiquants, des musulmans qui étaient anti-islam, ou alors des non-musulmans qui sont devenus musulmans. Cette adhésion, elle est beaucoup plus importante que non seulement ce qu'on peut imaginer, mais ce qu'on peut même gérer. Et on dit, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Si vous lui demandez au Caire, comment était la femme égyptienne il y a 30 ans? Il y a 30 ans, quand tu te balades dans les rues du Caire, les femmes voilées sont 5%, 3%, c'est quelques-unes. Aujourd'hui, les femmes non voilées sont 5%, 10%, c'est quelques-unes. J'étais à Istanbul il y a une trentaine d'années, il n'y a qu'un seul quartier à Istanbul, là où il y avait Hizb ar-Rafah, le parti islamiste, où il y a des femmes voilées. Il y a d'autres quartiers. Il y a un quartier à Istanbul, la femme voilée, elle est interdite. C'est le quartier européen. Personne ne rentre. Il n'y a que la perversion là-bas. Au jour d'aujourd'hui, tu vas à Istanbul, il est rare que tu trouves une Turque qui ne porte pas le foulard. Regardez dans... Vous êtes trop jeune pour vous rappeler de ça, mais demandez à vos parents, à vos aînés, il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, dans les marchés, ici, dans le Nord, à Valenciennes, à Denain, à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, le marché du samedi et du dimanche, il y a toujours des Arabes, il y a toujours des musulmans. Combien de femmes voilées on voit dans le marché? D'abord, les femmes ne sortaient pas beaucoup. Et quand elles sortaient, elles ne portaient pas le foulard. Allez vous balader maintenant dans les marchés et regardez la femme musulmane, qu'elle soit pratiquante ou non. Moi, j'ai à Amiens un Algérien qui n'a jamais fait la prière. Jamais. Et n'est pas pratiquant du tout. Seulement, quand il y a eu la première loi contre le foulard en 89, il est rentré voir sa femme. Il a 4 enfants de cette femme. Et il lui a dit, avec son dialecte algérien, si jamais tu mets pas le foulard, t'es divorcé. T'es talak. Et la pauvre, j'étais moi le responsable de l'association musulmane, l'imam de... Elle est venue me voir. Elle me dit des choses horribles sur ça. Mais il n'a jamais fait la prière. Il ne sait même pas dire Alhamdulillah, elle me dit. Mais c'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un qui fume, il veut m'imposer le foulard. Mais Chir fait quelque chose, je peux pas. Il veut me divorcer. Il veut. Et qu'est-ce que je fais moi avec mes enfants? Il m'a amené du pays. Je suis allé le voir. Il m'a dit, écoute Chir. Rien du tout. Elle met le foulard ou alors... Mais pourquoi? Il m'a dit, toi, tu connais pas le NIF. Eh, c'est le gourra là, ils veulent nous enlever le foulard. Non, c'est juste par fierté. Il faut qu'elle porte. Et ce monsieur-là, maintenant, il ne quitte jamais la mosquée. Après, il a pris... Sa femme, elle est devenue pratiquante musulmane. Ses enfants, il a 2 de 100 ans qui sont avec nos jeunes à nous. Et lui, il est devenu quelqu'un de vraiment très pieux et très... Mais ce qui l'a poussé à porter le foulard, ce n'est même pas la pratique. Ce n'est même pas Dieu. C'est juste nif, la fierté algérienne. Donc, vous pouvez trouver dans les places du marché beaucoup de femmes musulmanes, même si elles ne sont pas pratiquantes, mais elles portent... Il y a une sorte de pression culturel de l'islam, malgré la guerre déclarée au foulard, malgré les contraintes, malgré ça, mais il y a une chose qui nous échappe à nous. Et ce que les Français appellent la visibilité de l'islam, c'est les mosquées. Il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, regardez dans le Valenciennois, quand j'étais étudiant à Valenciennes, moi, on a négocié une salle. Il n'y avait même pas encore l'université à Valenciennes. C'était l'IUT, un institut universitaire. On a négocié avec le directeur de la résidence une salle pour qu'on fasse... il nous a donné quoi? Il nous a donné... Il y a une cafette de la résidence. Le vendredi, on ferme le cafétéria, vous enlevez les chaises, vous mettez vos tapis, ça devient votre mosquée. On a dit, ok, d'accord. Et comme on a fait la pression, il nous a vidé une chambre. Vous connaissez les chambres d'étudiants dans la... C'est une cellule, 3 mètres sur 3 mètres. Ouais. On a mis la pression, et là, et c'est un directeur qui était très bien, il nous a donné la chambre d'à côté, il a enlevé la cloison. On a eu deux chambres. Puis il nous a donné la chambre en face. Pourquoi? Parce qu'elle est juste à côté des toilettes pour qu'on fasse nos ablutions. Et l'année où j'ai quitté ma Valenciennes, on a commencé à négocier une mosquée. Seulement après qu'on a donné la caserne, maintenant, regardez dans le Valenciennois, regardez, il n'y a pas un patelin, il n'y a pas où il n'y a pas une mosquée. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas... Et ce n'est pas les mosquées des caves, ce n'est pas les mosquées, les foyers Sonacotra. Non, non, regardez, là, il vous a raconté, comment tu as dit pour les toilettes, ça va être quelque chose de fonctionnel, d'esthétique, de... Mais il fait même la publicité pour les toilettes, alors que... C'est-à-dire que ça va être quelque chose de moderne, quelque chose que, pour lequel on peut être fier. Il y a quelques mois, à l'instant T égale 0, Hosni Moubarak était président de la République et Mohamed Morsi était en prison. À l'instant T égale T plus 2 heures, Hosni Moubarak est en prison et Mohamed Morsi est président de la République. En quelques jours. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Il y a quelques mois, Rachid el-Ghannouchi était en exil et Ben Ali gouvernait la Tunisie. Quelques heures après, Ben Ali est parti en exil et Rachid el-Ghannouchi gouverne la Tunisie. Il ne faut pas croire que c'est nous. C'est l'agenda de Dieu. L'islam, vous allez venir, Inch'Allah, beaucoup d'entre vous vont venir au Bourget et nous allons vous projeter un film. J'ai demandé au monsieur, c'est un savant de Turkestan Sharqi, qui fait partie officiellement de la Chine. Vous avez entendu qu'il y a eu presque des massacres, les Chinois. Vous allez voir une image. Vous allez vous rappeler de ce que vous dites, parce que le Bourget, c'est dans quelques semaines, Inch'Allah. Une dame, avec son habit traditionnel, elle avance devant les chars chinois, et les soldats, on les voit en train de... Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment faire à cette dame. Une dame de 70 ans, elle avance avec une fierté, une dignité, et les Chinois, ils ne savent pas. Comme il y a beaucoup de caméras... Le char a commencé à reculer. Elle est partie voir le char. Toute la colonne de chars a commencé à reculer et la femme, musulmane, avançait. Et envoyer quelque chose qu'il n'y a qu'un musulman qui peut déceler. Envoyer l'aise. Vous savez, l'aise, c'est la dignité. Vous la voyez dans le visage de cette dame. Et vous voyez elle, vous voyez la peur, vous voyez la trouille, vous voyez le visage de tous les soldats chinois. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire, on ne peut pas dessiner, mais vous pouvez le vivre, ça. Donc l'état de l'islam, l'état des musulmans dans le monde, malgré nous, malgré eux, il est bien. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'islam se comporte et se porte très très bien. L'islam, pas les musulmans. L'islam est très bien. Et moi, je suis les activités musulmanes en Europe depuis presque 40 ans. Toutes les courbes sont ascendantes. Toutes. Il y a un ministre français, il y a quelques années, il a déclaré, il y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 2 ans, il a déclaré officiellement, bon, il l'a déclaré avec un peu de regret. C'est-à-dire en France, tous les mois, il y a 2 mosquées qui s'ouvrent et une église qui ferme. Moi aussi, je regrette avec lui cet état. Je ne suis pour rien dans cette affaire-là. On n'a jamais ordonné la fermeture des églises. On n'a rien fait pour ça. On ne veut pas que les églises ferment. Seulement, le français non-musulman, il perçoit ça comme une sorte de ce qu'ils ont appelé les envahisseurs, le renouveau. Et puis les mosquées qui s'ouvrent, même le ministre actuel de l'Intérieur, tous les mois, il a au moins... une inauguration de grandes mosquées. Maintenant, dans son agenda officiel, il sait que chaque mois, il a une grande mosquée quelque part, il faut qu'il fasse l'inauguration. Ces choses-là se passent à l'échelle du monde. J'étais dans des jungles, dans des forêts. En Afrique, il y a des tribus que, même à la télévision, ça me fait peur, moi. On m'a invité, il y a le seul monsieur d'un village, presque un village pygmée. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ose même dire ça ou je n'ose pas. Dans ce village, j'ai vu des choses bizarroïdes, vraiment. Les femmes musulmanes portent des vêtements musulmans amples, mais à l'africaine. Et dans le même village, des femmes musulmanes, mais qui sont, on va dire, dans la salle d'attente, elles viennent d'embrasser l'islam, elles vendaient des sortes de fruits bizarroïdes africains avec la poitrine complètement à l'air. Puis les gens, ils passent, c'est-à-dire que vous voyez des contradictions. Mais la chose qu'ils ont tous les deux, c'est quoi? Cette femme-là voilée et l'autre femme qui est presque nue, c'est dans sa culture comme ça. Je sais qu'elle va finir par se voiler parce qu'elle est en train Mais dans la tête des deux femmes, leur salut dans cette vie et dans l'au-delà, c'est l'islam. Elle n'est pas habillée du tout, mais dans sa tête, quand on a discuté avec elle, et d'ailleurs elle m'a demandé, s'il te plaît, tu viens de Paris, s'il te plaît, fais-moi une prière, une prière. C'est comme si la prière de Paris, elle va aller au ciel. Elle pense que Dieu, il accepte mieux les prières françaises parce qu'elles sont beaucoup plus rapides. Mais tu sens la sincérité dans sa demande. Tu sens que tu peux aller à New York au summum de la civilisation. Vous vous rappelez le scandale qu'il y a eu? D'ailleurs, il y a toujours le scandale. À l'endroit où il y a eu les deux tours jumelles, la construction d'une mosquée. Ce ne sont pas les musulmans qui ont décidé de construire la mosquée là. Mais les règles d'urbanisme, la ville de New York, vous avez besoin d'une mosquée. Il n'y a que cet endroit-là. On vous le donne. Bien sûr, les Américains, on ne peut pas. Bush, il a envoyé une armée en Irak pour amener les Irakiens à adopter la démocratie à l'américaine, à l'occidentale. Bush, George Walker Bush, au jour d'aujourd'hui, il est dans un ranch enfermé parce qu'il a perdu la tête. Il est devenu alcoolique, il est devenu fou. On a fait des reportages, et la CIA essaie de le protéger comme elle veut, mais elle peut pas. Il est devenu fou, il est devenu fou. Ouais. Seulement les soldats qu'il a envoyés en Irak, quand ils sont rentrés aux États-Unis, bien sûr, il y a des morts qui sont rentrés dans des cercueils, il y a beaucoup qui sont rentrés handicapés parce qu'ils sont blessés, il y a une majorité qui sont rentrés fous parce qu'on leur a demandé de faire des choses que l'être humain ne peut pas supporter tellement c'est injustifié, c'est injuste, et parce qu'on leur a raconté des choses qui ne sont pas vraies, mais une grande partie parmi eux sont rentrés musulmans. Et ils ont ouvert à la périphérie de Washington la plus grande mosquée des États-Unis, ou dans la plus grande base militaire à la banlieue de Washington. Ce n'est pas Ikhyoussen, ce n'est pas Ramadan, ce n'est pas Jabala, ce n'est pas Ben Mansour, ce n'est même pas le guide suprême des frères musulmans qui a planifié ça. Le mérite revient à Allah subhanahu wa ta'ala avant tout, mais il revient à George Bush. Merci Bush. On n'aurait jamais pu nous faire un truc pareil. Donc vous devez savoir avec beaucoup de fierté que l'état de l'islam, en général, il se porte bien. Alhamdoulilah, grâce à Dieu. Mais l'état des musulmans aussi, il est 1000 fois mieux que l'État qui était il y a 10 ans, hein, malgré toutes les faiblesses dont je vais parler, malgré toutes les divisions. Mais l'État, le constat général, c'est que l'islam, malgré nous, il est en train de gagner du terrain, mais dans quel sens? Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala veut que les musulmans reprennent le flambeau de la civilisation pour qu'ils remplissent leur rôle initial. Kuntum khayra ummatin. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. C'est la mission initiale. وكذلك جعلناكم أمة وسطة. وسطة, ça ne veut pas dire, on dit le juste milieu. وسطة, يعني أمة عدلة. Une nation équitable, une nation modérée, une nation référence, une nation du milieu, mais pas le milieu géographique. Le milieu, c'est-à-dire, c'est la chose la meilleure, la chose de l'équilibre, une nation d'équilibre. Pourquoi? Litakounou shuhada'a 'ala an-nas. Pour que vous soyez les témoins de l'humanité. Et malheureusement, on ne fait plus notre rôle de témoin, nous, depuis longtemps. Il est temps qu'on reprenne notre rôle de témoin. L'humanité nous attend. Les autres nations ont besoin de nous, même s'ils ne le savent pas. Parfois, le malade, il ne sait même pas qu'il a besoin d'être soigné. Et il va faire un contrôle juste dans la médecine de travail, un contrôle normal. On fait une prise de sang, puis on trouve qu'il a vraiment un problème. Et il a le diabète, il ne savait pas. Et il a le cholestérol, il ne sait pas. Il peut avoir d'autres maladies graves. Et ce malade, il a besoin de médecins. Et nous, on ne va pas attendre que la maladie se développe et que cette tumeur se transforme en métastase pour soigner les gens. Il faudrait qu'on remplisse notre rôle de médecin, parce que témoin, ça veut dire médecin, ça veut dire soigneur, ça veut dire quelqu'un. Le secours, les sauveteurs, c'est un rôle, c'est notre seul rôle sur Terre. Sinon, pourquoi faire? Il faut qu'on le fasse. Et Dieu, il est en train de nous donner un coup de pouce. On n'a pas calculé, on n'a pas planifié la révolution tunisienne, on n'a pas planifié la révolution égyptienne. Le guide suprême des frères musulmans, il a été reçu, enfin, il a reçu à sa demande, à la demande de l'ambassadeur russe, il a reçu l'ambassadeur de Russie. Et le guide suprême l'a reçu parce qu'il voulait lui parler de la position de la Russie en ce qui concerne la Syrie. Pourquoi les Russes soutiennent ce régime? Et en discutant, il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que notre révolution réussisse. Et l'autre, il est programmé communisme depuis un siècle. Il m'a dit, mais là, ne me parlez pas de Allah, ne me parlez pas de Dieu. Il m'a dit, mais alors qui a fait la révolution? Il lui a dit, c'est le peuple. Il m'a dit, et si le peuple vous dit que c'est Dieu qui a fait la révolution, vous croyez le peuple? Il lui a dit, oui. Demandez au peuple, vous allez voir que le peuple va vous dire que c'est Dieu qui a fait la révolution. Le peuple égyptien sait qu'il n'était que un moyen, un outil. Mais c'est lui qui a planifié ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Dieu, il nous donne de temps en temps un coup de pouce pour qu'on on revienne à notre rôle initial et qu'on reprenne le flambeau de la civilisation. Et c'est pour ça, toutes les courbes de l'islam sont des courbes ascendantes. Tout. Quand il y a eu la crise financière européenne, elle est toujours là. Elle a énormément de séquelles sur l'économie de l'Europe en général, les États-Unis en particulier, même si les États-Unis sont en train de camoufler leur déficit par l'argent des Arabes. Tous les ans, ils ont 300 à 400 milliards de dollars qui sont dus pour les pays arabes de pétrole et qui vont pas les payer, sont en train de camoufler, de colmater leur brèche avec cet argent. Mais même Jacques Attali l'a dit, en 2037, les États-Unis vont déclarer faillite, c'est fini, il n'y a plus cette puissance, ils sont en train de vivre sur le dos des autres. Mais ici, nous, en France, on vit cette crise financière. La seule économie qui n'a pas été affectée, qui ne sera jamais affectée par la crise, sont les finances musulmanes. Pourquoi? Parce que celui qui a inventé ces finances les a mis à l'abri de toutes les crises, de tous les aléas. Quel que soit le domaine que vous prenez, vous allez voir que nous, on a besoin de servir les autres parce que les autres, ils sont arrivés au bout de souffle, ils peuvent plus. L'Occident n'a plus les moyens d'être le guide de l'humanité. Qui va prendre le flambeau? Qui va guider les gens? Il n'y a pas 36 solutions. Les seuls qui ont cette mission, qui est écrite et qui est transmise, c'est les musulmans. Et pour que ça se fasse, il faudrait que les courbes de l'islam et des musulmans soient des courbes ascendantes dans le domaine économique, dans le domaine politique, même dans le domaine militaire. Je ne vais pas développer ça, dans le domaine stratégique, dans le domaine psychologique, dans le domaine, dans tous les domaines. Mais on n'a pas cette perception, nous, ici. À Rennes, on a la perception comme si on est faible et on est divisé. Et c'est vrai que parmi les musulmans, en général, les musulmans de France en particulier, les musulmans peut-être du nord de quelques villes, on a ce sentiment de faiblesse, on a ce sentiment aussi de division. On va essayer de voir ce sentiment-là. Pourquoi Et pourquoi cette faiblesse opère chez nous?
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
J'ai demandé à Othman de les écrire mot à mot. Kuntum. Kuntum, c'est un verbe. Si on le traduit en français, on va arriver à une traduction qui n'est pas exacte du tout. Mais c'est la seule traduction. Vous étiez. Il y a combien de temps dans la conjugaison française? Temps, T-E-M-P-S. Non, mais... Il y a trois, essentiellement. Le présent, mais le présent avec beaucoup de variantes. Le passé avec beaucoup de variantes, simple, composé, etc. Et le futur. Trois temps. Il y a combien de temps en islam ou dans la langue arabe? Puisque c'est le vecteur de l'islam, c'est la langue arabe. Il y a combien de temps en arabe? Il n'y a que deux. Donc déjà, ça peut pas coïncider. Il manque un temps. En arabe, il n'y a pas de présent. Et d'ailleurs, les arabes, ils ont raison, l'islam. Hein, parce que le présent, logiquement, n'existe pas. L'instant, la seconde, à partir du moment où la seconde commence à exister, c'est déjà du passé. Il n'y a jamais une seconde ou une minute qui vient et dit, voilà, je suis une minute, je vais vous donner une pause. Non, la trotteuse ne s'arrête jamais, elle tourne. Donc il n'y a pas de présent en réalité. Le présent, à peine il devient présent qu'il est déjà le futur, ou il est déjà le passé. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a que deux temps. Donc, traduire « kuntum » par « vous étiez », c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que veut dire « kuntum » ?« Kuntum » dans la langue arabe, on dit « hadhihi tufid al-istighraq ». C'est quelque chose qui veut dire « vous étiez dans le passé, vous êtes. Maintenant, vous serez dans le futur ». C'est-à-dire, « kuntum », ça remplit tout le vecteur temps. Dans le passé, dans le présent et dans le futur. C'est ça le sens de kuntum. Ça ne veut pas dire vous étiez avant. Non, maintenant aussi vous l'êtes. Et demain vous pouvez l'être aussi. Donc kuntum dans le verset, ça veut dire le temps. C'est-à-dire la continuité dans le temps. Quel que soit l'instant, vous pouvez être ce qui est décrit après. Kuntum khayra. Khayra c'est quoi? La meilleure. Et le terme « khayr » meilleur, c'est excellent. Parce que même s'il y a une autre nation qui est excellente, vous, vous êtes condamné, pas à être faible et divisé, vous êtes condamné à être mieux que excellent. Parce que meilleur, c'est-à-dire toujours mieux que les autres. Même s'il y a des gens qui sont excellents, le musulman devrait être excellent plus. S'il y a des gens qui sont excellents plus, le musulman devrait être excellent plus plus. Il faut qu'il soit meilleur, toujours. Pourquoi? Parce que c'est la référence, parce que c'est Shahid, c'est le témoin. Il faut qu'il soit le meilleur, la référence devrait être la meilleure. Donc, khayra, c'est l'objectif. On a dit kuntum, c'est le temps, c'est la continuité dans le temps. Khayra, votre objectif, votre diplôme, votre destinée, c'est d'être les meilleurs, être excellent. Excellent quoi? Omma. Omma, c'est-à-dire, c'est la nation. Dans le vecteur temps, à n'importe quel instant, si vous voulez être les meilleurs, vous devez prendre un véhicule, un outil, une machine qu'on appelle Omma. Si vous n'êtes pas Omma, vous ne pouvez pas être Khair. Si vous n'êtes pas une nation, vous ne pouvez pas être les meilleurs. Pour être les meilleurs, la condition, c'est que vous soyez dans ce véhicule-là qu'on va appeler Umma. Umma, c'est-à-dire nation. Bien sûr, nous avons d'autres versets coraniques qui nous expliquent Kuntum, le temps. On a d'autres qui expliquent Khayra, ça veut dire quoi? Al-Afdaliya, meilleur, ça veut dire quoi? Et on a d'autres versets qui nous expliquent c'est quoi Umma. Wa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida. Il n'y a pas de division. C'est la condition. Wa ana rabbukum fa'budun. Il y a qu'un seul Dieu, il y a qu'une seule nation. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pour être umma, pour être nation, vous devez tous être unis autour des valeurs que Allah subhanahu wa ta'ala nous a transmises. Donc le reste du Coran nous explique c'est quoi umma. Pour qu'on soit Les meilleurs, il faut qu'on soit Ummah. Il faut qu'on soit tous embarqués dans ce véhicule Ummah. Kuntum khayra Ummah ukhrijat. Ukhrijat, on appelle ça fa'al mabni lil majhoul. On vous a fait venir, on vous a sorti, on vous a fabriqué, on vous a imaginé, on vous a créé. Mais on, c'est qui on? Là, il ghaab, l'absent, en réalité, c'est pour donner l'importance au sujet. Celui qui a fait de vous cette Ummah, c'est tellement important qu'on n'a même pas besoin de dire que c'est Allah. Mais ça veut dire que si on a choisi pour vous d'être la meilleure des nations, ce n'est pas votre choix à vous les musulmans. Ce n'est pas le choix des juifs, ce n'est pas le choix des chrétiens, ce n'est pas le choix des mécréants, ce n'est même pas le choix des humains. C'est le choix du divin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété, qui a décidé que les musulmans devraient être la meilleure des nations. Donc, ukhrijat, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, il y a une politique, il y a une autorité qui a décidé. Mais c'est quoi cette autorité? Comment elle décide cette autorité? Comment on peut savoir que c'est Dieu? Et comment il nous donne une référence? Elle dit, c'est très bien, c'est simple. Ukhrijat, c'est-à-dire c'est Dieu qui vous donne la mission. Mais cette mission, elle est où? Elle est écrite où? Elle est décrite où? Elle est dite. Taraktu fikum ma intamassaktum bihima lam tadhillu. On vous a laissé l'ordre de mission qui explique ukhrijat, c'est Al-Qur'an. Et vous ne risquez pas de le perdre. Al-Qur'an ne va pas être falsifié, ne va pas être perdu, ne va pas être oublié. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. C'est Dieu qui va sauvegarder cet ordre de mission. Et si vous avez des difficultés à comprendre tous les termes du Coran, c'est pas grave. On vous a donné une notice explicative et on vous a envoyé même un technicien qui vous montre. La notice qui explique s'appelle As-Sunna. Le technicien s'appelle le prophète, ça allait vous expliquer. Et ils sont là, à votre disposition. Donc le terme ukhrijat, vous avez la référence divine pour être la meilleure des nations. C'est Al-Qur'an ou As-Sunna. Mais ukhrijat, cette mission, mon Dieu, tu me l'as donnée pour que je sois le meilleur, pour qui? Meilleur pour qui? Ukhrijat linnas. Là, c'est le destinataire. Vous êtes les meilleurs, mais pour qui? Pour annas. Annas, ça veut dire quoi? C'est-à-dire les mondes, c'est-à-dire les gens. Pas, vous n'êtes pas les meilleurs pour vous-même. Vous n'êtes même pas meilleurs pour les musulmans, pour les croyants. Vous devez être meilleurs pour les juifs, pour les chrétiens, pour les communistes, pour les mécréants, pour les homosexuels. Vous devez être les meilleurs pour les animaux, pour les plantes, pour les insectes, pour toute la création. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. T'es une miséricorde pour, pas l'univers, les univers, même les univers parallèles, même les dimensions qu'on ne connaît pas dans notre physique à nous. Donc, quand on dit les nas, votre mission, les musulmans, elle n'est pas pour vous. Elle vous dépasse. Si jamais vous trahissez votre mission, vous n'êtes pas les seules victimes. Toute l'humanité est victime de votre manquement à vous. Bon, on a compris. La destination, c'est Anas. Le diplôme, c'est l'excellence. Khayr Ummah. Le véhicule qui va nous amener vers cette excellence, c'est être Ummah. L'ordre de mission, c'est le Coran ou le Sunna. Quelles sont les conditions pour que cette mission soit remplie? Vous avez trois conditions. Trois missions entre Ta'muruna bil ma'ruf, Tanhauna anil munkar, wa tu'minuna billah. Pourquoi il commence par l'amr bil ma'ruf ou nahi anil munkar? Il commence par ordonner le bien, interdire le mal, et après il dit tu'minuna billah, vous croyez en Dieu, alors que la croyance en Dieu devrait être pour deux raisons essentielles. Quand il met tu'minuna billah à la fin, c'est pour dire que c'est une politique générale, comme le signe dans une équation. Tu fais une équation, entre parenthèses, toute l'équation elle est bonne. Seulement au lieu de mettre un signe plus, tu mets un signe moins. Bah, l'équation elle est bonne, entre parenthèses, comme le signe n'est pas bon, bah, le résultat il est nul. Tu auras zéro. Bah, tout ce que tu fais, c'est bien, mais s'il n'y a pas l'iman billah, si tu ne crois pas en Dieu, c'est vain. Ça te sert à rien du tout. Comme disent les Marocains, c'est battre. C'est gratuit. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, faja'annahu haba'an manthura. Tout ce qu'ils ont fait ne servira à rien parce que le signe n'est pas plus, il est négatif. Donc, c'est la première raison. C'est-à-dire qu'il met ça à la fin comme le signe pour que. Mais il fait ça pour une autre raison essentielle. C'est que croire en Dieu, c'est souvent dans l'imaginaire des musulmans, c'est faire la prière, faire le ramadan, faire le hajj, le pèlerinage. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ça c'est le culte que vous faites, en réalité c'est pour vous, mais vous avez l'impression de le faire pour moi. C'est pas grave. Si vous faites pas la prière pour moi, bien sûr vous commettez un péché, vous pouvez être considéré comme mécréant. Mais moi, en tant que votre Seigneur, je peux vous pardonner. Parce que ce culte, il est mon droit à moi, le droit de Dieu. Je peux le pardonner. Je peux vous pardonner votre manquement pour le ramadan. Je peux vous pardonner le fait que vous avez les moyens d'aller à la Mecque au pèlerinage, vous n'êtes pas allé. Seulement, je ne peux pas vous pardonner votre manquement vis-à-vis de la création. Si jamais t'as insulté quelqu'un, t'as volé quelqu'un, t'as tué quelqu'un, t'as agressé quelqu'un, même si t'as fait toutes les prières et toutes les zakats, Dieu va te donner une récompense. Mais si ces gens-là ne te pardonnent pas, tes prières ne te servent absolument à rien et tu iras en enfer malgré tout. Sauf si la personne te pardonne. Donc le plus important en réalité, ce n'est pas les droits de Dieu. Bien sûr, logiquement, le plus important sont les droits de Dieu. Mais en réalité, la conséquence de nos actes, le plus important pour nous, ce n'est pas le droit de Dieu. Parce que Dieu peut pardonner ses droits, c'est le droit des autres. Et vous avez des dizaines de hadiths, les imams ont dû vous raconter ça, comment l'homme vient le jour dernier avec beaucoup de prières, avec beaucoup de zakat, avec beaucoup de siyam, avec beaucoup de hajj. Wa ja'a wa qad zalama hada, wa daraba hada, wa shatama hada, wa safaka dama hada. Il vient mais il a agressé tout le monde, il était mauvais avec tout le monde. On prend toutes les bonnes actions qu'il a accumulées par la prière, par la zakat, et on la distribue aux autres. Mais ça ne suffit pas. Donc on prend de leurs mauvaises actions, min sayyi'atihim fatutrahu alayh, et on les jette sur lui. Non seulement il n'a plus de hasanat pour aller au paradis, mais en plus il a des dettes, il a des sayyi'at en plus. Fayu'khadh fayutrah fi an-nar. Et là on a, donc la prière elle lui a servi à quoi? À rien. Donc le plus important en réalité comme conséquence, c'est l'amr bil ma'ruf, c'est-à-dire le droit d'autrui. C'est an-nahy 'anil munkar, c'est ta relation avec les autres. Que tu fasses la prière tous les vendredis derrière Othman et que tu as ta barbe, ton jilbab, etc. et que tu as Oud al-Arak et tu fais sunnah. Et quand tu rentres chez toi, tu deviens un tyran. Tu frappes ta femme ou tu l'insultes ou tu la dénigres. Ou alors tu ne redonnes pas le bien à tes enfants ou tu laisses ta fille avec sa mini-jupe, tu laisses ton fils avec la cigarette. Donc ça ne te sert à rien ta prière derrière Othman. Au contraire, ça devient un témoin contre toi parce que « Inna salata tanha » عن الفحشاء والمنكر. Elle doit t'interdire. وَمَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنْ فَحْشَاءٍ وَمُنْكَرٍ لَمْ يَزْدَدْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا. Et si la prière ne perd pas ces choses positives chez toi, tu es en train de t'éloigner de Dieu tout en pensant que tu te rapproches de lui. Et c'est extrêmement grave. C'est pour ça qu'il nous a dit notre mission c'est d'ordonner le bien. Mais ordonner le bien pour qui? Il nous a dit le nas. Là où il y a un bien, tu dois le faire. Que la personne soit juive, que la personne soit chrétienne, que la personne soit mécréante, qu'elle soit musulmane, ce n'est pas important. L'important, c'est le bien. Et que toi, tu es chargé de transmettre ce bien. Quand la personne est menacée par un mal ou veut faire du mal ou d'autres, tu dois arrêter ce mal. Pour protéger qui? Pour protéger Anas. Ça, c'est le verset. C'est le vecteur, la ligne, je vous ai dit, directrice. Si jamais on ne monte pas dans le bus qui s'appelle Ummah, il y en a un qui va monter dans un autobus, l'autre dans un train, l'autre dans une voiture, l'autre dans une moto, l'autre un vélo, etc. On ne remplit pas la condition de Ummah. Donc on ne peut pas être Khayra Ummah, on ne peut pas être l'excellence. On ne remplit pas notre mission. Si jamais on est Ummah, on est tous unis. Mais on ne comprend pas notre mission. Pourquoi? Parce qu'on a délaissé le Coran. Je vous ai dit, c'est-à-dire, vous avez la référence, vous avez l'explication de votre devoir. Il est bien expliqué, détaillé, ce qu'on appelle sharia, ce qu'on appelle l'aqid. Vous avez le Coran, vous avez le sunnah. Si jamais on délaisse le Coran, on ne l'applique pas, on ne le pratique pas, ou parfois on l'apprend. Moi j'ai vu dans ma ville à Amiens, des gens, ce sont des gens très sincères, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qu'on appelle dans notre langage marocain, « Tulba ». Ils connaissent le Coran par cœur.
Seulement, ils ne l'appliquent pas. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils l'ont appris par cœur, mais ils n'ont pas appris la signification, l'interprétation. Et parfois, tu trouves Talb, malheureusement, il fait de la sorcellerie, il fait des gris-gris, il fait des choses qui sont complètement haram, min al-mubiqat al-saba, les péchés capitaux. Et pourtant, il connaît le Coran par cœur. Mais en réalité, il connaît le Coran par cœur, mais il ne connaît pas le sens de le Coran al-Karim. Donc on peut être Ummah, on peut être tous solidaires, la même chose, mais si on n'applique pas le Coran comme Dieu le veut, si on n'applique pas la Sunna comme Allah subhanahu wa ta'ala il veut, ben ça ne nous sert à rien du tout. Considérez que la Sunna des prophètes sallallahu alayhi wa sallam, c'est de porter un qamis au-dessus de la cheville et de laisser la barbe et avoir un oud arak. Et puis dire que le Qaradawi c'est kafir, que Maulawi c'est fasr, que toi tu vas aller en enfer, porter la haine. Ça n'a rien à voir avec sunna ça. Et si jamais moi je porte un costume, une cravate, tu vas me traiter de vendu, tu vas me traiter de gauri, d'occidentalisé, parce que je ne m'habille pas comme le prophète, t'as rien compris à sunna. Et pourtant toi-même qui me reproches ça, tu veux te conformer à sunna. Tu as un iPhone, c'est comme si le prophète se baladait avec un portable aussi. Tu as un vélo, tu as une voiture. Donc normalement, pour être conforme au sunnah, tu devrais te balader sur une mule, ou un âne, ou une chamelle, pour vraiment... Non, on prend le sunnah selon nos envies à nous, dans des choses un peu bizarroïdes, mais on ne connaît pas le sunnah. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on va dresser des barrières entre nous. On est peut-être une nation, mais si on ne connaît pas le sunnah, ben, cette nation va se disloquer, va se diviser. Chacun va comprendre. Ou alors, il y a des gens qui vont comprendre le Coran, vont comprendre un verset. Je connais, peut-être dans vos connaissances, des dizaines, pour ne pas dire de centaines de jeunes qui m'interpellent dans mes conférences partout. Ils viennent me dire que ça, c'est pas vrai. Pourquoi ils me citent un verset? Ou alors, ils me disent, c'est quoi Dalil? Pourquoi ta barbe, elle est comme ça, une barbe de 3 jours? Pourquoi tu la laisses pas comme ça? Et donne-moi Dalil. Je lui dis, t'as quelle formation? J'ai un CAP de boulangerie. Bon, ok, c'est bien. Mais tu comprends que ça veut dire Dalil, tu sais? Si je t'apporte Dalil, tu sais que... Oh, il a appris ça chez Google, là, sur Internet. Il a entendu quelqu'un dire ça, etc. Et il va dresser des textes qu'il n'a pas compris comme il faut pour me contrer. Et moi, je vais réagir d'une manière extrêmement violente et négative. Et qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une division. On était Ummah, mais non. Notre non-compréhension du Coran et de la Sunna va diviser. Supposons que maintenant nous sommes une Ummah et on a très bien compris le Coran. On a très bien compris la Sunna, donc très bien. Seulement, tout ce qu'on fait comme bien, on le fait juste pour nous. On ne fait pas pour les autres. On le fait pour les musulmans. Et nous avons ce racisme. Est-ce qu'il y a des Syriens ici? S'il y a des Syriens, j'aimerais qu'ils ne m'écoutent pas, qu'ils n'entendent pas ce que je vais dire là. Parce que nous avons un racisme arabe. Les Arabes sont racistes contre les non-Arabes. Et je l'ai vérifié partout, même ici en France. Il y a des Arabes qui ont le racisme anti-noir, anti-africain. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Ils sont pas loin, mais il y a des Arabes qui sont racistes contre les Iraniens, contre les Turcs, contre les... Il y a des Arabes qui sont racistes contre les Français, ce n'est pas parce qu'ils sont... Gauri. D'ailleurs, le terme Gauri qu'on utilise, ça veut dire guerroyer, ça veut dire guerrier, ça veut dire muharb. C'est un terme extrêmement péjoratif. Mais à l'intérieur des Arabes, il y a des Marocains qui sont racistes contre les Algériens. Des Algériens contre les Tunisiens. Des Tunisiens contre les... Et nous avons vécu, et on vit encore, il y a des mosquées qui sont presque exclusivement, sinon en majorité mosquées marocaines, en majorité mosquées algériennes, en majorité mosquées turques. On peut comprendre pour les Turcs, les Sénégalais, on va dire c'est la langue, la barrière. Mais entre les Marocains, les Algériens, les Mauritaniens, les Tunisiens, quelle barrière de langue? Il n'y a pas. Mais... on a ce racisme. Pourquoi j'ai dit la Syrie? Parce qu'à l'intérieur de la Syrie, non seulement il y a un racisme des Syriaques, mais il y a à l'intérieur un racisme entre Halab et Hamat, entre Hamat et Sham, Dimashq. Et malheureusement, nous avons ce racisme dans notre culture et ce racisme fait qu'on privilégie dans nos actes nos proches, les gens de notre ville, les gens de notre pays, les gens de notre tribu, les gens de notre race, à l'intérieur des musulmans. Mais faire le bien pour les non-musulmans, on a chez nous, c'est nos jeunes, je ne sais pas comment on a transmis ça à nos jeunes. Chez nos jeunes, ils ont une allergie contre les juifs. Quand il lui dit juif, il a des boutons qui poussent là.
pris cette haine? Ça n'existe pas, cette haine. Elle n'est ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Il y a même les Marocains qui disent Yehudi Hachek. C'est comme si c'était Hachek, c'est quelque chose de... C'est extrêmement insultant, péjoratif, mais on va trouver une explication comme les Juifs, ils ont pris la Palestine, etc. Ça va nous donner un truc. Et ça va former dans notre imaginaire, d'une manière inconsciente, une sorte de haine, de mépris contre les Juifs. Ce n'est pas parce qu'il est mécréant, c'est parce qu'il est juif. On va faire la même chose pour les chrétiens, on va faire la même chose pour les non-croyants. Et si tu détestes quelqu'un, tu peux jamais être un derrière. Tu peux jamais le... Parce que tu les détestes. Tu peux pas lui transmettre cette miséricorde, cette mahabba. Donc nous, même si on est une bonne nation, même si on a maîtrisé le Coran et la Sunna, si notre bien n'est pas destiné à l'humanité, à tout le monde, parce qu'ils sont des humains, on doit leur donner le bien, ben on n'a pas fait notre mission. Et supposons que, ça y est, on a dépassé aussi ce stade. Nous, on fait le bien à tout le monde. Mais on le fait comment? Al-amr bil-ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Vous savez, c'est quoi? Il y a des savants, y compris Cheikh Al-Qaradawi, mais la majorité des savants, ils disent que l'islam n'est pas, on dit les cinq piliers de l'islam, parce que on se base sur le hadith « Buniya al-islam wa ala khams ». Et d'ailleurs, on a appris à nos enfants, c'est comme si l'islam, il n'a que cinq piliers. La majorité des savants disent que, en réalité, si on doit parler de piliers, il y a deux autres piliers qui manquent. Et qu'on trouve dans des centaines d'autres hadiths et dans des centaines de versets. Mais nous ne sommes pas dans ce hadith-là, parce que ce hadith-là, il est destiné à une élite qui était présente auprès du prophète quand Jibril est venu lui demander ça. Les deux autres piliers, le premier c'est Al-Amr bil-Ma'ruf wa Nahi 'anil Munkar. Et l'autre pilier, c'est Al-Jihad. Al-Jihad, pas dans le sens de la guerre, dans le sens de l'effort, Al-Jihad. Et vous allez voir, tous les savants musulmans, la majorité disent que les piliers, si l'islam il a des piliers, ils sont sept, ils ne sont pas cinq. Ce hadith-là, il est spécifique. Mais nous, ce pilier, l'Amr bil-Ma'ruf et Nahi al-Munkar, on l'oublie. On l'oublie pourquoi? Ben, là, je vais développer un peu. Parce que la cause essentiel en réalité de la division et de la faiblesse des musulmans, ce n'est pas une cause externe, ce n'est pas la faute des juifs, ce n'est pas la faute des chrétiens, ce n'est pas la faute des américains, ce n'est pas la faute de la maçonnerie, la franc-maçonnerie, ce n'est pas la faute du sionisme, ce n'est pas la faute du communisme. La faute essentielle revient aux musulmans. Et tout à l'heure, en parlant avec le frère Ekyusen, on parlait de la gestion ici dans notre région des associations, il me racontait quelque chose qui s'est passé. C'est la même photocopie dans la majorité des villes. Le premier crime qui a été commis au ciel, c'est un crime qui a eu pour cause, pour moteur, la jalousie. Al-hasad. Qala ana khayrun min, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Satan, il avait une jalousie contre Adam, il n'a pas voulu obéir. Quand Allah subhanahu wa ta'ala les a chassés tous les deux du paradis, sont descendus sur terre, le premier crime qui a été commis sur terre a pour cause la jalousie. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ. Entre Cain et Abel, Qabil ou Habil, Cain il a tué son frère Abel, pourquoi? Par jalousie. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a accepté l'offrande de celui-ci, il n'a pas accepté l'offrande de celui-là. Ce qui se passe dans les associations musulmanes, dans les états musulmans, dans les révolutions, ça. Et je suis désolé de dire ça, il y a des gens qui vont m'en vouloir, mais ce sont des choses, j'étais acteur de beaucoup de ces choses-là, j'étais témoin direct. Les moujahidines afghans étaient divisés en cinq parties. Les frères musulmans d'Égypte, Allah Izzim Khir, ils ont dépêché en Afghanistan un homme. Et cet homme, je l'ai rencontré deux, trois fois ici en Europe. Quand on le voit, surtout j'ai passé quelques jours avec lui dans un camping, où Allah, ça te rappelle les compagnons, ça te rappelle les sahabes. Comment ils mangent, comment ils dorment, comment ils parlent, comment ils... Les frères musulmans, ils l'ont dépêché en Afghanistan pour unir les moujahidines. Il a passé quelques mois... Il a fini par les réunir dans
une même union, l'ittihad, l'ittihad al-mujahidi. Et à partir de cette union-là, la guerre a changé de visage. Et les mujahidines, ils ont commencé à infliger aux soviétiques des pertes incroyables qui ont fini par la perte de l'Union soviétique et la dislocation, la disparition de l'Union soviétique. Vous devez savoir et être fier de ça, que ceux qui ont fait disparaître l'Union soviétique, ce n'est pas la démocratie occidentale. Ce n'est pas le pape, wallah, ce sont les mujahidines afghans. Et avec cette union, ils ont gagné la guerre. Comment on a récompensé ce monsieur? Ben, on l'a assassiné. Les services secrets de beaucoup de pays se sont coalisés pour l'assassiner parce qu'il a fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire. Unir les mujahidines. C'est un cheikh qui s'appelle Kamal Sananiri, rahimahullah ta'ala. Une fois les Afghans ont gagné la guerre contre l'Union soviétique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont divisés qui va gouverner, qui va être le président. Et dans leur division, c'est moi le président, non c'est moi ce qui est mieux, c'est là. Et si tu es le président, tu risques de nommer tes amis, tes proches dans des postes clés pour m'empêcher d'accéder. On a commencé à mettre en place la jalousie de Iblis, la jalousie de Kabil, et il y a eu la guerre civile entre eux. Wallah, ce que les Afghans ont tué entre eux est 10 fois plus nombreux que ce que les Soviétiques ont tué. Par pure jalousie. Allah subhanahu wa ta'ala les a punis. Il a renvoyé les Américains. Il faut savoir que c'est une punition. Pourquoi? Parce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit « As-saifu al-tariya, al-zalim, l'injuste » Saifun min siyufillah, yantakimu bihi, thumma yantakimu min. Le tyran, quelqu'un qui est injuste, en réalité c'est une épée dans la main de Dieu, dans le destin. Il va l'utiliser pour justement se venger de quelques-uns, et puis il va se venger de ce tyran après. Et vous pouvez voir l'histoire de l'humanité, c'est comme ça. Dieu, il a envoyé Nabucodonosor pour les juifs, pour les punir, puis il a envoyé Cyrus pour Babylone pour les punir. Et c'est toujours comme ça. En Syrie, la première révolution syrienne, ceux qui ont mon âge ou un peu plus âgés, ils se rappellent peut-être qu'on connaissait par cœur Anachid Abu Al-Joud ou Abu Dujana ou Nadir ou Abu Ahmed, ouais, on a appris ça et tout le monde a soutenu la révolution. Seulement, c'est la seule révolution, c'est bizarre au monde, elle avait 3 têtes, 3 présidents, 3 responsables. Cheikh Saïd Hawa, rahimahullah, Mohamed Ali Al-Bayanouni ou Adnan Saadeddine. Pourquoi 3? Parce qu'il y a 3 villes qui ne s'entendent pas. On ne peut pas faire confiance à l'un d'entre nous. Et on a fini par perdre cette révolution. Et Hafez al-Assad, il a massacré toute une ville, plus de 20 000 personnes, et les a massacrées. Même au jour d'aujourd'hui, malgré toute la coalition, il y a à l'intérieur même encore des divisions. Mais ces divisions, c'est pas le fruit. Les Juifs alimentent ça, les Américains alimentent ça, les Français, les Occidentaux alimentent les divisions des musulmans. C'est leur rôle, c'est très bien. Chapeau, ils font leur travail. Mais en réalité, la division, elle est le fruit des musulmans. C'est nous. Pourquoi? Parce que nous avons une jalousie. Moi, quand je vois, je suis président de l'association, et je vois que les autres veulent m'avoir, veulent ma peau, juste par jalousie. J'ai 2 réactions. Soit je vais me venger, je vais comploter contre. Donc je vais laisser en réalité une grande partie de mon énergie, au lieu de comploter pour aider les musulmans, je vais comploter comment bloquer les autres, comment contrer l'un. Ou alors, j'essaie de programmer mon cœur autrement. L'amr bil ma'ruf, je commence par moi-même. Et au lieu de porter de la jalousie, de la haine, ou même de la rancœur, je vais porter une sorte de pitié. Rahma. Parce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit « Kullu dhi na'matin mahsoud ». Si tu me jalouses, c'est parce que je suis bien. Et si je suis bien, c'est « Alhamdulillahi rabbil alamin ». Je dois remercier Dieu. Et je te le laisse. C'est ce qu'a fait Hassan ibn Ali, radiallahu anhu. Les musulmans l'ont choisi comme calife. Mais il a vu que Mu'ayya le jaloux, il veut lui prendre. Et si tu ne me donnes pas, je vais massacrer les musulmans. Non, non, non. Ne massacre. Tiens, prends. Tu veux le khilaf, je te la donne. Et il a régné 6 mois, il l'a laissé tomber. Justement pour sauvegarder
les vies des musulmans. Et il n'a pas perdu de sa dignité, ni auprès de Allah, ni auprès des gens. Mais ça, c'est une disposition très difficile à avoir. Combien parmi nos imams, combien parmi nos présidents, je parle des associations musulmanes, je ne vais pas parler des gouverneurs musulmans, c'est encore pire, mais dans notre carcan à nous, dans notre milieu clos musulman, combien de problèmes sont créés par les relations personnelles qui sont des relations minées, qui sont des relations qui ne respectent ni Al-Qur'an ni Sunnah, mais qui sont plus ou moins alimentées par les passions et par les envies personnelles. Et après, quand la mosquée, au lieu de l'ouvrir cette année, on va l'ouvrir l'année d'après, quand il y a quelqu'un qui démissionne, quand il y a quelqu'un qui est chassé de l'association, etc., bah, tous les musulmans vont perdre. Tous, ils vont en pâtir. Mais on met ça sur le dos jusqu'à quand nous allons être condamnés à être faibles et divisés. C'est comme si c'était quelque chose qui nous est imposé par le destin. Le destin, il n'est, Allah subhanahu wa ta'ala, bari, il n'est pour rien. Inna Allah la ya'mur bil fahsha. Lorsque les musulmans ils ont dit Uhud, anna hada, pourquoi nous avons perdu? Qal qul huwa min indi anfusikum. Regardez, parce qu'on vous a donné des ordres, le prophète vous a donné des ordres, mais vous avez préféré le butin, vous avez préféré le ghanaim, vous avez désobéi, vous avez perdu. Ce n'est pas parce que vous êtes des musulmans, ce n'est pas parce que Muhammad est avec vous que je vais vous donner une faveur, moi, votre Dieu. Non, vous avez un ordre à suivre. Vous avez un comportement à avoir. Et à la tête des associations musulmanes ici de France, pour moi, depuis 40 ans que je suis dans le mouvement, la cause numéro un, ça n'a jamais été les RG, ça n'a jamais été le Mossad, ça n'a jamais été la DST. Ça, bien sûr, ils complotent. Bien sûr, ils font beaucoup de choses. Bien sûr, ils nous accusent de beaucoup de choses à tort. Mais la cause numéro un, c'est notre mauvais comportement à nous, les musulmans, alimenté par l'envie, par la jalousie, par une sorte de ce que le Coran appelle dhulman wa ulou. Wadda ta'ifatun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Pourquoi? Hasadan min 'indi anfusihim. C'est juste par jalousie. Yuriduna al-ist'ala, adh-dhulm wa al-ulou. Moi, j'ai besoin de ton poste. Il y a quelques mois, il y a eu des élections dans ma ville. J'ai réuni des étudiants. Moi, je ne participe pas aux élections. Et je leur ai dit, écoutez, quand tu es dans le secret de l'urne, tu dois savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il va sonder ton cœur. Et si jamais tu choisis quelqu'un, tout en sachant qu'il y a quelqu'un d'autre de plus compétent que lui, c'est une trahison. Man ayyan, man ikhtar. C'est lui qui choisit quelqu'un, un homme, rajoul. Wa fil qawmi man huwa khayrun minhu. Et il sait qu'il y a plus qu'un. Faqad khana Allah wa rasoulah. Il a trahi Dieu et son prophète. Alors je lui dis, quand tu vas choisir le président, ne dis pas je vais choisir un Marocain parce que je suis Marocain. Ne dis pas je vais choisir un Tunisien parce que je suis Tunisien. Je vais choisir un jeune parce que je suis un jeune. Regarde quel est le plus compétent. Et après tu regardes quel est le plus sincère. Et si tu trouves qu'ils sont tous les deux sincères, mais il y en a un qui est plus compétent, bah tu choisis le plus compétent. Parce que la sincérité, tu ne peux pas la sonder. C'est quelque chose dans... Mais la compétence, on a besoin de ça. Tu regardes. Et je leur ai expliqué ça. J'étais une douzaine d'étudiants avec moi. Ils sont partis pour le vote. Bon, bien sûr, les résultats que j'ai vus après, c'était des résultats décevants. Mais il y en a un. Et il devrait d'ailleurs m'accompagner aujourd'hui, subhanallah. Il est venu me dire, il m'a dit, écoute, wallahi, j'étais convaincu de ce que tu as dit. C'est vrai. Mais il m'a dit, je te dis, et moi je trouve qu'il est honnête. Et d'ailleurs, je l'ai remercié pour cette honnêteté. Il m'a dit, mais au moment où j'allais mettre le nom de Zayd, je me suis dit, c'est vrai, Zayd, il est plus compétent. C'est vrai, il va nous faire beaucoup de bien. Mais Zayd, il ne me voit pas, moi. Il me néglige. Il me méprise. J'aurais aucune existence, aucun poste. Mais si je mets Amr, c'est vrai qu'il est moins compétent, mais je suis sûr et certain d'être son bras droit. Et il m'a dit, mon shaitan m'a dit, puisque tu vas être son bras droit, tu vas compléter la compétence que lui manque. Et il était content, ça y est, il a trouvé la parade. Mais en réalité, mais en tout cas, il a eu l'honnêteté de venir me dire. Et je vous jure que dans le CRCM, dans le CFCM, dans les élections, même les élections au sein de notre association mouvement,
beaucoup d'entre nous, quand ils choisissent, ils n'ont pas le critère de Dieu. Ils ont le critère du poste, de la compétence, mais la compétence qui a des répercussions sur lui-même ou sur ses enfants. Et là, les critères de l'origine, là, le critère du pays, le critère de l'âge. C'est-à-dire, ce sont des critères qui ne sont pas nécessairement des critères pour Dieu. Ce qui fait qu'on souffre dans toute notre organisation de lacunes, de problèmes. On souffre de dictature. Je fais des conférences pour parler de Shura, de la démocratie, que les musulmans devraient se concerter, que normalement on est contre ces tyrans, et puis on crie contre les Ben Ali, contre les Moubarak, contre les Kadhafi, parce que ce sont des tyrans qui nous ont gouvernés, ils ne font pas de démocratie, ils ne font pas Shura, etc. Et je fais pendant 10 ans, 15 ans des conférences sur ça. Puis un jour, on me donne la présidence de vous. Eh bien, je deviens un dictateur, immédiatement. Parce que la seule chose que j'ai apprise, c'est la dictature. Et je ne partage pas, et je peux être président. Vous avez des associations musulmanes en France, et même dans le Nord, dont le président, il est président depuis 20 ans, depuis 30 ans. Vous croyez que parce qu'il n'y a pas d'autres compétents dans l'association, mais parce que déjà, nous, on a la prédisposition à accepter que lui, il sait, nous, on ne sait pas. Et c'est mieux comme ça. Et lui, il a compris que moi ou le chaos, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Et quand il y a des associations comme ça, quand il y a des imams comme ça, quand il y a des responsables comme ça à l'échelle de la communauté, eh ben ça fait énormément de lacunes dans notre organisation. Ça fait ce qu'on appelle la division, ce qu'on appelle la faiblesse. Et l'énergie que je devrais déployer moi pour présenter l'islam, pour éduquer les enfants, pour bâtir des écoles, pour bâtir des centres de formation, je vais la déployer pour contrer les autres. Ou alors je suis tellement dégoûté que je vais laisser. Je connais à l'UIF des gens, des compétences, des sommités, des docteurs, des doctorants, ils ont laissé l'association. Il y en a marre. Il y a toujours. Donc ils vont travailler, ils travaillent, ils font des sites internet où ils travaillent, ils donnent leurs compétences à d'autres gens. Et nous, on les perd. Pourquoi ? Parce que notre gestion de l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, elle n'est pas guidée par Ukhrijat, elle n'est pas guidée par le Coran et la Sunna, elle est guidée par nos envies, nos passions à nous, tout en pensant, tout en croyant qu'on est en train de faire du bien. Et ça, c'est le pire. Alladhina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. On pense que c'est bien. Mais en réalité, quand on cherche au fin fond de nous-mêmes, c'est parce que ça nous sert à nous, on a un intérêt quelque part, quelconque. Et c'est cet intérêt-là que j'ai appelé la jalousie, l'envie, ce que vous voulez, c'est la cause numéro un de la faiblesse des musulmans et de la division des musulmans. Et personne ne peut rien, sauf nous. Chacun de nous doit ce soir sonder son cœur et décider, même s'il pense qu'il n'est pas jaloux, il pense qu'il n'en veut pas, mais même s'il n'est pas jaloux, s'il est passif, s'il ne s'intéresse pas aux affaires de la... Non, vous, quel est l'imam, quel est le président, moi, je viens faire la mosquée... Cette passivité aussi, c'est une faiblesse, parce que la passivité, c'est que tu n'as pas cette fibre qui vibre à l'intérieur de ton cœur pour te dire que toi aussi, tu es responsable. Tu dois donner un conseil, tu dois guider, tu dois participer. Mais si tu es passif, si tu es négatif, si tu es en retrait, et que les responsables, tous, ne travaillent pas tous 100% pour l'association, mais il y a quelques-uns qui travaillent 1%, 10%, 15% pour eux-mêmes, ben, si on multiplie ça à l'échelle de 1,5 milliard de musulmans, regardez les milliards de kilowatts, de mégawatts d'énergie qui sont perdus, qui donnent cette idée, cette perception de faiblesse et de division. Alors que normalement, nous avons une force de frappe que personne d'autre ne possède à part nous. Et c'est le sens de إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Je vous jure, wallah al-azim, si ce soir chacun d'entre nous décide, même s'il ne le fait pas, mais décide avec niya, que ce soir il va faire un lavage de son cœur. Il va essayer de débarrasser son cœur de toute jalousie, de toute envie, de toute passivité, de toute négativité. Même s'il ne le fait pas, mais en tout cas, il prend la décision. Notre état demain va être beaucoup mieux. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il sonde les cœurs. Il y a un quota. Quand il voit que les cœurs sont propres à un certain pourcentage, là, il y a madad al-sama, il y a l'aide de Dieu qui arrive sans qu'on le sache. Et puis, demain matin, le téléphone va sonner. C'est une dame, ici, c'est quoi votre ville? Rem.
Ouais. Un imam qui dit, mon mari m'a laissé un peu d'argent, je veux vous donner 15 000 euros, 10 000 euros, j'ai entendu que vous voulez faire les toilettes. Et ça y est, vous n'avez pas besoin de... Mais ce n'est pas une anecdote, c'est passé des dizaines, des centaines de fois comme ça. Il suffit que les musulmans changent la parabole de leur cœur pour qu'elle soit dirigée réellement vers Dieu, pour que immédiatement les patrouilles du ciel descendent et prennent en charge l'état des musulmans. Mais parce que nous avons changé ce qu'il y a en nous-mêmes. Et à ce moment-là, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va changer le reste. Donc si jamais nous sommes divisés, ce n'est pas une fatalité, on n'est pas condamné à l'être, si on est divisé, parce que nous avons choisi. C'est notre faute à nous. Et si on veut être unis, si on ne veut pas de division, il nous appartient à nous, chacun de nous, de changer son cœur pour que ce ciment nous unisse. Et si on est faible, ce n'est pas parce qu'on est faible, il n'y a pas plus fort que nous. On a toutes les matières premières du monde, on a toute l'énergie solaire, atomique, l'uranium il est dans nos pays, le pétrole il est dans nos pays, le soleil il est dans nos pays, même le vent il est dans nos pays, les mers les plus importantes stratégiques, les canons les plus importants, si jamais on arrête Gibraltar, le monde s'arrête au bout d'un quart d'heure, si jamais on ferme le canal de Suez, au bout de 10 minutes, la France s'arrête, 10 minutes après, parce que le monde il est alimenté par les artères des pays musulmans, que ce soit la mer Noire, que ce soit la mer Rouge, que ce soit la Méditerranée, que ce soit tous les océans. Que nous possédons la terre la plus fertile en fertilité agricole, mais fertile en poissons, fertile en sable, en désert, en Sahara. Les Français, on peut leur dire, nous, les Tunisiens, on est meilleurs que vous, parce que nous, on a des champs, des forêts comme vous, mais nous, on a un désert, vous n'avez pas, vous, de désert. Donc on a un truc de plus. Et on a besoin de ça. Parce qu'il y a énormément de choses, on ne peut les trouver que là-bas. Donc on a tout, on n'est pas faible. Si on est faible, c'est parce que nous, on ne sait pas gérer cette manne, cette richesse. Le Coran, c'est une richesse, c'est la meilleure des richesses. La Sunna, c'est une richesse. L'Islam, c'est une richesse. Nos pays, ce sont des richesses. Nos mères sont des richesses. Notre âge, la moyenne d'âge de la nation musulmane, c'est la moyenne d'âge la plus faible dans le monde. On est beaucoup plus jeune que les Chinois, on est beaucoup plus jeune que tous les Asiatiques, on est beaucoup plus jeune que les Européens, on est beaucoup plus jeune que tous les Américains, que ce soit les Américains du Nord ou du Sud. Donc notre force de frappe humaine, c'est une jeunesse. On n'est pas faible du tout, seulement on ne sait pas exploiter toutes ces richesses parce qu'on est faible dans notre cœur. Et notre cœur, ça nous appartient à nous. La décision, c'est nous. Et chacun d'entre nous peut changer le monde musulman. Ce soir, il suffit que chacun dirige sa parabole vers le ciel. Ya Rab, aide-nous à être meilleurs. Et on pourra être meilleurs. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.